Apocalypse chapitre 10, versets 8 à 11. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit, « Va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. » Et j'allai vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit, « Prends-le et avale-le. Il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. » Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fut dans ma bouche doux comme du miel. Mais quand je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis il me dit, « Il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. » Alors, si vous voulez vous asseoir. Alors, cette semaine, j'ai commencé un petit peu à regarder un petit peu le chapitre 11. Et l'auteur que j'utilise me dit dans son commentaire, « Le chapitre 11, c'est le chapitre le plus important du livre de l'Apocalypse pour la compréhension globale de l'ensemble du livre. » Alors, ça, c'est pour la semaine prochaine, on va commencer le chapitre 11. Aujourd'hui, on va terminer ce qu'on avait débuté la semaine dernière dans l'étude des versets 8 à 11 du chapitre 10. On avait dit qu'on avait donné comme titre que Jean doit dévorer le petit livre et poursuivre sa commission divine prophétique. Donc, on avait vu que le verset 8 et 9, c'était le petit livre qui se devait d'être dévoré. Et dans le verset 10, on avait le petit livre qui était dévoilé. Et dans le verset 11, on avait le petit livre qui était développé. On avait regardé dans les leçons précédentes que trois grands malheurs avaient été annoncés par le Seigneur. Et on va reviser un petit peu cela rapidement. Donc, la cinquième trompette, c'était le premier grand malheur. On avait vu que c'était des démons qui recevaient du Seigneur la permission de tourmenter les incroyants et les persécuteurs impies de façon très intense, tant physiquement que psychologiquement. Et le but de les tourmenter, c'était qu'ils viendraient, qu'ils souffriraient tellement, qu'ils demanderaient la mort, mais que le Seigneur ne permettrait pas qu'ils connaissent la mort, ni par le suicide, ni par quelque autre façon que ce soit. Alors, ça, c'était le premier grand malheur. Là, on est arrivé à la sixième trompette. La sixième trompette, on sait qu'une trompette, normalement, c'est pour avertir. Alors, si le Seigneur avertit que s'il n'y a pas de repentance, ça va s'en aller dans cette direction-là. C'était le deuxième grand malheur. On avait parlé que c'était une armée de 200 millions. Hey, c'est du monde, ça, 200 millions. 200 millions de démons qui sont comme laissés sur la terre. Et là, ils reçoivent de Dieu la permission de tuer de quelque façon. Là, les façons dont ils ont la permission de tuer ne sont pas nécessairement détaillées. Ça peut être par la drogue, ça peut être par toutes sortes d'abus. Le Seigneur permet qu'il y ait un tiers de l'humanité qui va être tué. Si on parle de l'époque moderne, 8 milliards, on parle de 2 milliards et demi, 3 milliards, qui se rapproche des 3 milliards, c'est énorme. Alors Dieu va permettre que plus on s'approchait de la fin, plus les jugements qu'il va envoyer vont être d'une grande sévérité au point d'amener la mort. Alors ça, c'est important de voir ça. Et si on avait annoncé 7 trompettes, puis 3 grands malheurs, ce qu'on voit, c'est que à un moment donné, il y a un arrêt dans la trompette. On ne voit pas la septième trompette tout de suite, puis on ne voit pas le troisième grand malheur tout de suite. Il va arriver beaucoup plus tard. Alors, la séquence est interrompue parce qu'on appelle un interlude. Les chapitres qu'on est en train d'étudier, c'est un interlude. Alors, cette interruption est intentionnelle et elle comprend tout le chapitre 10 et une partie importante du chapitre 11. Allez jusqu'au verset 13. Ce n'est que dans les versets 14 et 15 du chapitre 11 que là, la septième trompette et le troisième grand malheur est annoncé. On le relit. Le second malheur est passé. Voici le troisième malheur qui viendra bientôt. Or, le septième ange dans la trompette. Voyez-vous, il y a eu le sixième ange et le deuxième grand malheur, mais ça nous est donné beaucoup plus tard. C'est pour ça qu'ils appellent ça une interlude. Alors, et de grandes voix se firent entendre dans le ciel qui disaient, « Les royaumes du monde sont soumis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. » On avait vu que Dieu, c'était Jésus, parce que l'ange qui avait un pied dans le ciel et un pied sur la terre, on avait vu que par la description qui était donnée, c'était fort probablement la personne de Jésus-Christ lui-même. Alors, c'est la personne de Jésus-Christ qui dit à Jean. Alors, quand il dit, « Et la voix que j'avais entendue du ciel, c'est la voix de Jésus-Christ, me parla de nouveau, et il me dit, « Va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange, qui se tient sur la mer et sur la terre. » Alors, Jean obéit. J'allai vers l'ange et lui dis, « Donne-moi le petit livre. » Et il me dit, « Prends-le et le dévore, il remplira tes entrailles d'amertume, et dans ta bouche il sera doux comme du miel. » La semaine dernière, on s'était demandé, parce que le livre, il en parle à deux endroits. Il ne l'appelle pas nécessairement le petit livre, mais là, les commentateurs, quand ils arrivent à cette partie-là du livre, ils se demandent, est-ce que là, on parle du même livre que Jésus avait reçu de Dieu le Père et qui comprend les décrets de tout ce qui était pour se dérouler et arriver sur la terre dans toutes les époques jusqu'à la fin. Et il dit, est-ce que c'est le même livre que ça? Et on avait dit la semaine dernière, non, parce que on avait fait la différence entre le livre des décrets, qui est le livre donné par Dieu le Père à Jésus, pour qu'il exécute ce que lui, les décisions qu'il a prises sur toutes les choses qui devraient se dérouler sur la terre à toutes les époques, à tous les siècles, dans toutes les nations, pour tous les individus, y compris dans nos propres vies. Alors le petit livre, on avait regardé dans Deutéronome 29, c'est un verset clé pour comprendre quelle est la doctrine des décrets. La doctrine des décrets, ce que Dieu a décidé de toute éternité, qui devait arriver sur toutes les nations, sur tous les individus de la terre, sans aucune exception. Imaginez-vous, on approche les 9 milliards, mais au cours de l'histoire, la quantité d'individus et de nations qui ont changé. Des fois, il y a un pays qui vient au monde, comme on dit. Puis d'un coup, centaines d'années après, il disparaît. Tout ça, les décisions divines ont été prises sur toutes choses, y compris nos propres vies. Ça, c'est ce qu'on appelle la doctrine des décrets. Ça fait partie des choses cachées à nos yeux, à nous. Comment on cherchera dans les Écritures, là, notre destin, quelle date tu vas mourir, tu ne le trouveras pas. Parce que ça dit dans Deutéronome 29-29, les choses cachées appartiennent à l'Éternel, notre Dieu, mais les choses révélées sont pour nous et pour nos enfants à jamais, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Il est en train de faire une distinction entre des fois on appelle ça la doctrine des décrets, mais c'est le décret. Quand on se met à réfléchir et à méditer sur la doctrine du décret divin, il y a quelque chose pour nous faire vraiment halluciner, là. Autrement dit, Dieu de toute éternité a décidé tout ce qui se passerait sur la terre à tous les niveaux. Pas rien qu'humain, là. Animal, les bébites, comme on dit nous autres, là, les insectes, tous les oiseaux, les astres, tout ce qui se passerait dans l'univers. Pas rien que la terre, dans l'univers. Il a tout décidé qu'est-ce qui était pour se passer. Et maintenant, ce qu'on vit, là, c'est le déroulement d'une décision divine, y compris nos vies personnelles. Prends du temps avant de saisir ça. Moi, je ne sais pas la date que je vais mourir, mais le Seigneur, lui, sait. Puis, c'est pas. Pour personne d'entre nous, on ne sait pas la date qu'on va mourir. Mais le Seigneur, ça fait partie de la doctrine du décret. Mais c'est déjà décrété. Les Écritures nous disent que le Seigneur connaît la date de notre décès. Il sait de quoi on va mourir, quand on va mourir, comment on va mourir. Il sait tout ça. Nous, on ne le sait pas. C'est ça qu'il est en train de dire. Les choses cachées appartiennent à l'Éternel, notre Dieu. Comment on essaiera de deviner ça? Il y en a qui prétendent qu'ils sont capables, avec les sciences occultes, puis l'astrologie, puis toutes ces affaires de prédiction d'avenir. Mais ça, c'est des affaires démoniaques. Les Écritures nous disent pas de choses à ça. Mais ils disent une autre affaire dans le même verset. Il nous dit, mais les choses révélées. C'est quoi les choses révélées? Dieu dit que ça, il nous les a données pour notre instruction, pour qu'on sache comment se comporter dans la vie. Alors, que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. On avait regardé, je ne sais pas s'il y en a qui l'ont fait, là, prendre la confession de foi, 1689, et on regarde, il y a un chapitre au complet, le chapitre 3 de la confession de foi, qui parle uniquement de ça. Il y a un paragraphe qui parle des choses cachées de Dieu, puis les autres parlent des choses révélées. Quand on parle des choses révélées, on rentre dans la révélation de ce qui concerne la personne de Jésus-Christ. Parce que la Bible, c'est tout Jésus-Christ. À partir du premier verset jusqu'au dernier, le thème, le développement de la Bible, c'est la personne de Christ. Alors, ce qu'il est en train de nous faire voir, c'est que le petit livre, c'est les choses qui concernent le salut, les choses qui concernent la personne de Jésus-Christ, les choses qui concernent la destinée éternelle. C'est ça, le petit livre. Puis il dit, si tu le manges, on sait qu'on... Essayez pas ça pour déjeuner, là, avec un café. Mais dévorer la parole, ça veut dire la lire, ça veut dire l'écouter, ça veut dire la méditer, ça veut dire lire des commentaires, ça veut dire que tout faire pour essayer d'en absorber le contenu. Et n'est-ce pas que quand on est sauvé, le contenu des Écritures devient doux? Parce qu'on découvre Dieu, on découvre le Saint-Esprit, on découvre le salut, on découvre qu'on est des pécheurs pourris, condamnés, et on apprend que Dieu, dans sa grâce, est venu nous donner la vie éternelle, le pardon de nos péchés, alors qu'on aurait dû aller dans le feu pour l'éternité. Quelque part, si c'est pas doux à notre esprit, ça, là, qu'on va aller vivre avec Dieu toute l'éternité, que tous les péchés qu'on aurait faits... Moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup de... Il faut vraiment s'arrêter. Hein. Un seul péché. Un. Nous méritait d'être plongé vivant dans le lac de feu pour l'éternité. Un seul. Qu'est-ce que ça vient nous dire, ça? Moi, je me souviens que... Aujourd'hui, la doctrine de l'enfer, c'est une doctrine qui est rejetée, méprisée, balayée. Les gens ne veulent plus entendre parler de ça. Pourquoi? Parce que c'est extrêmement sévère. Moi, je connais quelqu'un qui me dit, « Voyons donc, ouais, si Dieu va t'envoyer en enfer, on fait même pas ça un chien. » Puis là, il commence avec des raisonnements humains. Faut pas rester dans les raisonnements humains quand on parle de choses divines. Il faut regarder ce que les Écritures disent. Dieu est trois fois saint. Quand on dit, nous autres, la sainteté, comment qu'on comprend ça? C'est une séparation du mal. Certains chrétiens se séparent du mal plus que d'autres. Mais on a une notion de la sainteté qui est tellement petite, qui est tellement incomplète. Quand on parle de la sainteté de Dieu, c'est quelque chose d'absolu. Quelque chose de parfait, infini. Comment peut-on comprendre, nous, quelque chose, quand on parle de sainteté de Dieu qui est infini? Quand on pêche contre lui, on l'offense de façon infinie. C'est ça qui fait qu'un seul péché nous mériterait d'être plongé vivant dans le lac de feu pour l'éternité. L'éternité, c'est aussi, c'est infini. Quelque part, là, c'est vraiment une doctrine extraordinaire que celle de la grâce de Dieu, celle que le Seigneur est venu nous chercher dans notre misère, s'est révélé à nous. Il a révélé qu'on était des pécheurs, on l'a cru. Pourquoi? On l'a cru parce que c'est nous autres qui avons décidé de croire à ça, ou on l'a cru parce que Dieu nous avait donné le Saint-Esprit. Et quand on reçoit le Saint-Esprit, les choses de Dieu deviennent miraculeusement. On croit ce que Dieu dit. On sait qu'on était pécheur, on sait qu'on est perdu, on sait qu'on est condamné, et on sait que si on meurt dans cet état-là, c'est là qu'on s'en va pour l'éternité. Quand Dieu nous dit, à cause de Jésus-Christ, si tu crois en lui, non seulement tous tes péchés sont pardonnés, mais tu vas vivre avec lui pour l'éternité. Et non seulement ça, mais ce que tu as fait de bien sur la terre, il va te récompenser pour cela. Est-ce qu'on méritait une récompense en plus? Mais pourtant, il va nous la donner. Alors ça, c'est doux. Mais il dit, en même temps, quand tu vas l'avaler, tu vas digérer tout ça. Quand tu vas venir pour le partager autour de toi, tu vas te rendre compte que là, tu vas avoir des problèmes. Essayez-le, tous les jours, là. Parlez de Jésus-Christ autour de vous. Quand vous entendez quelqu'un blasphémer autour de vous, puis sacré, utiliser le nom du Seigneur en vain, là, on sera supposé d'intervenir. Vous vous moquez combien de fois qu'on se ferme la trappe par peur de recevoir. Ben là, toi, viens pas m'écœurer avec tes appels. N'est-ce pas que c'est vrai? C'est amer. Parce que quand on vient pour partager les choses de Dieu et avertir les gens que quand ils pêchent le péché qu'ils viennent de commettre, là, ça leur mériterait l'enfer éternel. Dis ça à quelqu'un. Tu m'en donneras des nouvelles. Quand on partage les choses du Seigneur, on reçoit des mauvais traitements, on reçoit de la haine, on reçoit de la jalousie, on reçoit du rejet, on reçoit de... Name it, comme ils disent, il y en a qui sont allés en prison, il y en a qui sont morts, il y en a qui ont été torturés. Il n'y a pas rien qui... Mais c'est-tu amer, ça? C'est très amer. Alors, les choses révélées, dans la page 3, ceux qui ont les notes, on avait regardé qu'à la confession de foi 1689 nous explique de façon très détaillée au paragraphe 3, 4, 5, 6 et 7, son intérêt. Moi, s'il y a un paragraphe qu'on devrait relire dans la confession de foi 1689, c'est bien le chapitre 3. Lisez ça, comprenez ça, gardez ça dans votre esprit, puis partagez ça autour de vous autres, vous allez voir, vous allez comprendre ce qu'il veut dire, parce que les choses, quand tu l'as avalé, c'est amer. Alors, on était rendu là. Alors, les choses révélées sont celles de la Bible et du salut en Jésus-Christ. 1 Timothée, chapitre 3, verset 16. « Et de l'aveu de tous, le mystère de piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché par les gentils, parmi les gentils, cru dans le monde et élevé dans la gloire. » Le verset clé là-dedans, là, qu'on a de la misère à saisir, là, c'est « Et de l'aveu de tous, le mystère de la piété est grand. » Dieu a été manifesté en chair. C'est qui ce Dieu qui a été manifesté en chair? C'est-tu Dieu le Père? C'est Dieu le Fils. Jésus, c'est Dieu le Fils. Et il était pleinement divin lorsqu'il est venu sur cette terre. Et manifester, ça veut dire rendre visible aux yeux de tous. Il a été manifesté en chair. Ça veut dire que ceux qui l'ont vu, là, quand vous me regardez, vous voyez quoi? Vous voyez un homme en chair? Mais quand les hommes de l'époque de Jésus l'ont vu, qu'est-ce qu'ils ont dit de lui? Ils ont pensé que c'était un homme. Ça les a pris beaucoup, beaucoup de temps. Même après qu'il était décédé, qu'il était enseveli, même à partir du moment qu'ils ont su qu'il était ressuscité, encore là, ça les a pris un temps fou avant de comprendre à qui il avait eu affaire quand Jésus est venu sur terre. Et même aujourd'hui, il y en a qui commencent à dire « Jésus, t'as pas Dieu », dont les témoins de Jéhovah et plein d'autres mondes comme ça, parce que c'est une idée que si t'as pas la foi, tu pourras pas croire ça. Alors, c'est le petit lit, le mystère de la piété, Dieu manifesté en chair, c'est vrai que c'est de l'aveu de tous, le mystère de piété est grand. Piété en anglais, c'est godliness. La piété, ça veut dire l'amour de Dieu, la compréhension de qui est Dieu. C'est vrai que c'est grand. de comprendre que Dieu le Fils est venu. Dieu le Fils, il avait tous les mêmes attributs que Dieu le Père et que Dieu le Saint-Esprit. Il est descendu sur la terre. Toi, il y a des versets qui parlent qu'il s'est humilié pour venir se présenter comme s'il était un homme alors qu'il était Dieu. Il était à la fois homme et Dieu. L'homme-Dieu, c'est unique dans toute l'histoire de l'humanité. Maintenant, le petit livre dévoilé dans le verset 10. « Et je pris le petit livre de la main de l'ange et le dévorai. Il fut doux dans ma bouche comme du miel et quand je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. » Il y a une belle phrase, dans cette version-là, « dévorer ». Est-ce qu'on dévore notre parole de Dieu? Tu sais, des fois, on dit, « Ah, tel bon livre nous est recommandé par un ami. » Puis il dit, « Ah, c'est bon! » Quand quelqu'un nous dit ça, c'est drôle, on est porté à lire ce que les gens nous recommandent. Est-ce qu'on dévore la parole de Dieu? Comme on dévorerait un livre qu'on trouve bon et qu'on le lit et qu'on le relit et qu'on le re-relit et qu'on le re-relit. On serait supposé. Alors, le petit livre nous enseigne plusieurs leçons. Son contenu est centré sur la personne de Christ, pour utiliser un beau grand mot, christocentrique. Son contenu est christocentrique. Si vous le lisez, regardez n'importe quel commentaire des Écritures, ils vont vous dire tout le temps que la Bible, ça parle de Jésus-Christ à partir du premier verset jusqu'au dernier. C'est la personne de Christ qui est le centre. Alors, la personne de Christ. Il y a une chose importante qui nous est dit au chapitre 8 de Romains 8, versets 28 et 29. C'est des versets qu'on utilise quasiment ad nauseam, mais qu'on comprend très peu. Or, nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Prenons notre vie de tous les jours. On a-tu des affaires à chialer dans le cours d'une journée? Ah! Probablement pas vous autres, je parle de moi, là. Je vais être prudent, je vais parler de moi. Je suis un chialeux de nature. Je chiale sur tout. Mais quand je chiale, qu'est-ce que je suis en train de faire, dans le fond? Je suis en train de dire à Dieu, ce que tu m'envoies dans ma vie, là, ça me dérange, ça me fait souffrir, puis ça m'écœure. J'avais-tu besoin de ça, moi, là? À vous devez dire ça dans votre vie. J'ai-tu besoin de ça, moi, là? Oui, tu avais besoin de ça. Si on serait vraiment spirituel, comme les Écritures nous disent qu'on devrait être spirituel, on chiolerait jamais. Pourquoi? Parce que ça nous le dit ici, la réponse est ici. Toute chose concourt, dans le grec, là, c'est toute chose travaille ensemble. C'est comme un tricot. Toutes les affaires qui t'arrivent dans ta vie, les moindres détails de ta vie quotidienne, c'est Dieu qui est en train de tricoter pour t'emmener dans une direction. Et ça dit, verset 29, « Car ceux qui l'ont connu d'avance, c'est qui ça? C'est nous. Dieu nous a décidé de qui sauverait de toute éternité. Il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier né d'entre les frères. » Il nous a choisis. Le but, c'est de nous amener à la ressemblance de notre Sauveur. Tu sais que des fois, quand on parle des athlètes, hein, tu sais, celui qui essaie de sauter plus que 8 pieds, la barre est haute des fois, mais là, elle est plus que haute. Là. Nous faire ressembler davantage à Jésus-Christ, ça, il faut qu'il nous fasse vivre une multitude d'expériences et plusieurs d'entre elles sont amères. Puis quand elle est amère, là, l'expérience, là, on est porté à penser que c'est pas bon pour nous autres. C'est bon pour nous autres. Si Dieu, je reçois dans ma malle cette semaine, le facteur cogne à la porte, puis il me fait signer une lettre enregistrée, puis il y a un chèque d'un million dedans. « Ah, ben là, Dieu, je te remercie. Ah, je suis content. » Mais si tu envoies quelque chose, que tu tombes malade au lit, tu es écrasé dans le lit pendant 3 ans, tu trouveras pas que c'est intéressant. Pourtant, le verset, si tu le médites comme il faut, c'est ça que ça veut dire. Alors, son contenu est christocentrique, son contenu est doux, et on était rendu là. Alors, cette même douceur avait été aussi expérimentée par le prophète Ézéchiel et aussi par le prophète Jérémie. On va regarder les deux passages où il nous parle de ça. Dans Ézéchiel, chapitre 3, les versets 1 à 4, on voit des patterns dans la Bible, hein? La question du petit livre manger, avaler, digérer, c'est pas la première fois qu'on parle de ça des Écritures. Ézéchiel, chapitre 3, versets 1 à 4. Puis il me dit, fils de l'homme, mange ce que tu trouves, mange ce rouleau et va, parle à la maison d'Israël. Et j'ouvris la bouche et il me fit manger ce rouleau. Et il me dit, fils de l'homme, repais ton ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. Je le mangeai donc, et il fut doux à ma bouche comme du miel. Ça ressemble-tu au passage d'aujourd'hui, ça? Pas mal, je trouve. Puis il me dit, fils de l'homme, rends-toi vers la maison d'Israël, et tu leur rapporteras mes paroles. Si vous avez déjà lu Ézéchiel, quand il s'en va dire ça au peuple, il y a des problèmes. Et Jérémie, tout le livre de Jérémie, c'est un livre où un homme de Dieu est envoyé au Seigneur. Le Seigneur envoie un homme dans son peuple pour les avertir de toutes sortes de choses, pour les amener à la repentance, et il reçoit des mauvais traitements. Et ils le mettent dans une citerne, il n'y a pas rien qu'ils n'ont pas fait. Jérémie, chapitre 15, verset 16. « Dès que j'eus trouvé tes paroles, je les ai dévorées, et tes paroles sont la joie et l'allégresse de mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi, éternel Dieu des armées. » Alors, on voit d'autres passages, et je sortais qu'il y en a d'autres, là, où l'idée de dévorer un rouleau ou un livre, dans le temps, c'était des rouleaux, la Bible, c'était pas des livres comme nous autres aujourd'hui, on parle du petit livre, c'est plus fort probablement le petit rouleau, c'est un rouleau. Alors, son contenu est amer. Alors, l'amertume, c'est associé aux conséquences négatives et même cruelles causées par les opposants au dessein de Dieu et à l'installation du royaume messianique. On va prendre des exemples. Hérode. Qu'est-ce qu'il a fait quand il a su que le Messie était arrivé? Fait tuer tous les enfants en bas de 2 ans. Imaginez-vous, vous auriez été une mère. Vous êtes une mère, là, puis vous avez un enfant qui n'a même pas 2 ans. Puis le roi, parce qu'il pensait que en faisant tuer tous les enfants, il éliminerait le Messie, l'amertume que ça... Quand on dit Rachel, on parle du peuple de Dieu, les femmes du peuple d'Israël, ils ont dû... Imaginez-vous la douleur que ces gens-là ont connue. Alors, il y a eu l'exemple de ça, il y a eu l'exemple des pharisiens, les romains qui ont mis Jésus à mort, tous les faux prophètes, tous les faux enseignements, les enseignants. Alors l'histoire de l'Église vraiment fourmille d'exemples de douleur, de souffrance, de cruauté, de persécution, de meurtre, d'emprisonnement, de torture, de mauvais traitements envers les enfants de Dieu qui voulaient et qui veulent encore faire avancer l'évangile de Christ dans le monde. Prenez aujourd'hui, quand le mercredi soir, à un moment donné, on avait pris l'habitude de regarder ceux qui étaient persécutés. Les nations qui sont persécutées sont nombreuses. Il y en a encore plus d'une cinquantaine où ce que c'est pas de la persécution. Comme nous, au Québec, on peut dire qu'on est persécuté. C'est à peine si on est persécuté. Mais il y a des pays, là, que si tu parles de Jésus-Christ, là, tu vas voir que ça coûte cher. Je ne sais pas s'il y en a qui ont lu, je pense toi tu l'as lu, comment il s'appelle, William Winbrand, il vivait en Roumanie, dans le temps des communistes. Il a continué, malgré les emprisonnements, il sortait, il recommençait, il prêchait Christ sans arrêt. Peu importe ce que ça pouvait apporter, on ne riait pas là, à l'époque. Là. Quand tu parlais du Seigneur Jésus-Christ, dans un pays communiste à cette époque-là, tu étais emprisonné. Puis en plus, non seulement il t'emprisonnait, mais il faisait tout en leur pouvoir pour te faire croire que ta femme était décédée. Ils faisaient comme de la guerre psychologique, autrement dit. Tu es en dedans, puis ils font exprès pour t'abreuver de nouvelles qui vont t'écraser. Alors, il y en a qui ont continué à partager l'Évangile malgré les menaces, malgré les emprisonnements, malgré les mauvais traitements, malgré... Moi, quand je lis ces livres-là, là, je me dis à moi-même, « Oh, Marcel, as-tu ce courage-là? Est-ce que tu aimes le Seigneur à ce point-là? De risquer de te faire cracher dessus? » Si on vous disait du jour au lendemain, là, si tu parles encore du Seigneur Jésus-Christ dans la ville de Lac-Mégantic, là, il y a une police qui va aller chez vous, puis on va vous enfermer pour 2 ans. Il y en a-t-il encore plusieurs qui continueraient à parler de Jésus-Christ ici? Si on répond non, c'est parce que quelque part, on se laisse dominer par la peur et on ne fait pas confiance au Seigneur Jésus-Christ. Lui, il disait, peu importe ce qu'ils feront avec moi, il faut que j'annonce. Puis il y en a plusieurs qui sont venus au Seigneur. Quand tu lis son livre, c'est extraordinaire. Des bourreaux qui ont fait mal dans la prison, là. Ils ont été sauvés parce qu'ils ont continué à parler de l'Évangile autour de lui. Ça prend quelqu'un qui est proche du Seigneur, mais pas à peu près, pour continuer à parler de lui malgré qu'on est bafoué, rejeté, maltraité, emprisonné, torturé, tout ce que vous voudrez. Alors, l'histoire en est pleine. On a dans Jérémie, on parle des opposants de Dieu, Jérémie 31, verset 15. « Ainsi a dit l'Éternel. » Ici, c'est le fameux passage où il est en train d'annoncer que quand Jésus va arriver, il va avoir des cris à il parle de qu'Hérode a fait tuer ses enfants. Ça dit, ainsi a dit l'Éternel, on a entendu dans Rama des cris, des lamentations, des larmes amères. Rachel pleurant ses enfants, elle a refusé d'être consolée au sujet de ses enfants parce qu'ils ne sont plus. Quand on parle de Rachel, si on parle d'une personne ou si on parle de Rachel comme étant la représentante des moments d'Israël, on parle de Rachel comme étant, quand il dit Rachel, Hérode a fait tuer des milliers d'enfants en bas de 2 ans parce qu'il pensait d'avoir le Messie en faisant ça. Quand il dit ici, ça avait été annoncé dans l'Ancien Testament, c'était pas arrivé encore. Ça disait que c'était pour arriver. Ainsi a dit l'Éternel, on a entendu dans Rama des cris, des lamentations. Imaginez-vous, vous êtes une mère de famille, vous entendez parler, le roi rentre chez vous, puis coupe la tête de ton enfant. Devant toi, les cris, essaye d'imaginer, tu sais, les cris des mères, l'amertume, tu sais, c'est comme... Alors, c'est spécial. Matthieu, chapitre 2, verset 16 à 18, raconte un peu ce passage-là. Alors, Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère, et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous, qui était à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. On a entendu des cris à Rama, des pleurs et de grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants. Elle n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Voyez-vous, on parle des affaires qui se sont passées dans l'Ancien Testament, qui se réalisent dans le Nouveau Testament. Dieu, on parlait des choses cachées, ça faisait partie des choses cachées, mais il l'avait révélé. Pour eux autres, c'était difficile. Alors, quand on veut propager la vérité du salut en Jésus-Christ autour de nous, il y a 2 choses qui vont être au rendez-vous, la peur et le découragement. On le sait, on l'a tous vécu. La peur, c'est qu'on a peur de se faire dire des bêtises parce qu'on parle de Christ. Puis le découragement, c'est que tu dis, « OK, moi, c'est fini. À partir de demain matin, je parle à tous ceux que je rencontre de Jésus-Christ. » Tu vas le faire un bout de temps. Puis là, à force de te faire chanter des bêtises, là, il y a quelque chose qui va s'installer. Ça s'appelle le découragement. « Oh bien là, moi, si tu penses que je vais me faire chanter des bêtises comme ça tous les jours, là, je vais les laisser faire. Je ne les dirai plus, je n'en parlerai plus. » C'est ça qu'on fait. Est-ce que c'est ça qui est bien? Moins sûr. Le Seigneur nous dit, d'un autre côté, que quand on va partager les choses de Jésus-Christ, il va nous donner les moyens de s'endurcir et de nous rendre capables. Ça nous dit dans Ézéchiel 3, versets 7 à 9, « Mais la maison d'Israël ne voudra pas t'écouter, parce qu'elle ne veut point m'écouter, car toute la maison d'Israël a le front dur et le cœur obstiné. Voici, j'endurcirai ta face pour que tu t'opposes à leur face, et j'endurcirai ton front pour que tu t'opposes à leur front. Je rendrai ton front semblable au diamant, plus dur que le roc. Ne les crains donc point et ne t'effraie point de leur visage, bien qu'ils soient une maison rebelle. » Tu te fais dire ça par Dieu. Continue de parler de moi parce qu'ils sont vraiment tête de « Ils ont le front dur, mais dis-toi, je vais t'endurcir la face. Je vais t'endurcir, tu vas venir dur comme un diamant. » Ça veut dire que Dieu est capable de nous donner ce qu'on a besoin pour être capable de partager l'Évangile autour de nous autres, même si ça fait mal. Parce que le Seigneur, il dit ici, « Je rendrai ton front semblable au diamant, plus dur que le roc. » Donc, si on arrête de partager l'Évangile parce qu'on a peur et qu'on se décourage, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut dire au Seigneur, « Donne-moi ce que j'ai besoin. Tu vois bien que je suis un pissou. Tu vois bien que je ne suis pas capable. Tu vois bien que j'ai peur à mourir. » Pensez-vous que le Seigneur répond à une prière comme ça? Il répond. Est-ce qu'on le demande souvent?
Non.
Ah! On ne le demande pas souvent. On dirait qu'on a peur qu'il nous exauce. on était rendu au troisième point, le petit livre qui est développé. Non seulement après lui avoir dit ça, il lui dit, alors il me dit. Qui ça? Il me dit. Il, Christ? Alors, il me dit, il faut, on n'aime pas ça nous autres, cette phrase-là, hein? il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, partager l'Évangile à du monde qui sont à peu près de ma classe sociale, je ne suis pas trop pire. J'arrive des fois à le faire, les fêtes. Mais quand il parle ici, là, de roi, est-ce qu'il veut dire juste les rois ou les grands de la terre? Les grands de la terre. Avez-vous remarqué comment on a peur de partager l'Évangile aux grands? Je ne sais pas pourquoi. Disons un médecin, ou un notaire, un avocat, un député. Voyons donc, pas pour lui parler de l'Évangile. On a peur de parler du Seigneur devant les grands. Pourtant, le Seigneur, il a sauvé des rois dans le passé. Il est encore capable d'en sauver des rois. Mais s'il sauve des rois, c'est parce qu'ils ont entendu parler de Jésus-Christ quelque part. Il faut que quelqu'un en parle. Alors, ici, on a le renouvellement de son mandat prophétique. Jean voit son mandat de poursuivre son œuvre de prophétie, être renouvelé, mais avec une grande autorité. Il faut que tu prophétises encore. C'est comme si Dieu te disait à toi personnellement, il faut que tu partages mon évangile encore. Prophétiser n'est pas seulement parler de l'avenir, mais aussi parler au nom de Dieu. Quand on lit dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 21, tu sais, ça nous dit quoi? Ça nous dit qu'on est des ambassadeurs. Il faut dire aux gens qu'il faut qu'ils se convertissent. Il faut dire aux gens... C'est pas facile à faire. Il n'y a personne qui a jamais dit ça. Alors, il dit... Il renouvelle son mandat prophétique, mais ensuite, il l'élargit universellement. Il faut que tu prophétises encore. Là, il parle de peuple, de nation, de langue. Pourquoi il y a eu tant de missionnaires dans le passé qui sont allés en Afrique, en Asie, aux Indes, un peu partout? Quand tu lis des histoires, là, un que je connais en particulier, c'est celui qui est allé en Chine, Hudson Taylor. Je lis sa biographie, 500-600 pages. Quand tu lis ça, là, tu te dis qu'il y a de quoi, il y a de quoi te faire mettre petit dans tes culottes. Tu viens petit, pourquoi? Parce que tu dis, et lui, il a aimé le Seigneur. Il ne fait pas juste en parler. Il a agi. Tu laisses ton pays. Tu t'en vas en Chine, même toi, dans les années, fin des années 1800. Là, la Chine, même encore aujourd'hui, aller faire du ministère en Chine, ce ne serait pas une chose facile. Mais à la fin des années 1800, c'est encore bien plus difficile. Non seulement il a appris le chinois, c'est extraordinaire que tu lis les vies de ces gars-là, là. Puis leurs épouses aussi, les épouses qui venaient, c'était des femmes extraordinaires, des hommes extraordinaires. Puis il y en a eu plein comme ça, des missionnaires, qui ont cru vraiment quand Dieu dit « Va annoncer mon nom aux nations, à tous les gens autour de toi, que ce soit à Lac-Mégantic, que ce soit n'importe où. Consacre ta vue à annoncer mon nom. » Ça vaut-tu la peine? Ça vaut la peine parce que les gens s'en vont en enfer. Puis s'ils écoutent l'Évangile puis qu'ils viennent au Seigneur, ils vont aller au ciel. Ça vaut-tu la peine? Tous les sacrifices que ces gens-là ont fait, toutes les misères qu'ils ont eues, toutes les douleurs, ça valait plus que la peine. Imaginez-vous la récompense qu'ils vont recevoir au ciel. C'est extraordinaire. Dieu, il est un comptable extraordinaire de toutes les actions que tu as faites pour lui. Il va te donner des récompenses pour ça. Extraordinaire. Alors, quand on parle ici d'annoncer l'Évangile autour de nous autres, il y a quelque chose on parlait d'écuministes. Alors, on dit un jour, on va développer l'idée de l'écuministe. Aujourd'hui, c'est pas très populaire parce qu'il y a beaucoup de dénominations chrétiennes qui ont dit « Ne partageons plus l'Évangile entre nous ». Par exemple, disons, certains protestants ont dit « Ne partageons plus l'Évangile avec les catholiques parce que c'est des frères. » Et ça, l'écuménisme. Alors, quelque part, et ne partage pas l'Évangile avec un musulman, parce que lui, c'est sa façon de voir Dieu, puis c'est aussi bon que la tienne. Mais quand tu embarques dans ce jeu-là, là, la Bible dit, sans la foi en Jésus-Christ, c'est impossible d'être sauvé. Alors, il faut que tu parles de Christ, qu'il soit catholique, qu'il soit n'importe quoi. Parle-y du Seigneur. Parle-y de son œuvre. Parle-y de sa personne. Alors, c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile, puis ça va l'être encore plus, parce que depuis quelques années, on n'arrête pas de développer l'idée de la religion mondiale. Il va venir un temps qu'ils vont réunir les gens, et non plus sur la base de la vérité, mais sur la base, supposément, quand les hommes diront « paix et sûreté ». Ils vont vouloir la paix. Si on veut la paix, il faut arrêter de parler des religions. Toutes les religions sont bonnes. On entend ça de plus en plus. C'est pas vrai. Il faut annoncer l'Évangile. Alors, prions que Dieu nous donne de proclamer l'Évangile de Jésus-Christ haut et fort. Et demandons au Seigneur aussi de susciter des proclamateurs. Des proclamateurs puissants et pleins d'arditure. J'ai lu des biographies à maison de personnes que quand tu lis sa vie, tu dis « Hey, t'aurais-tu été capable de faire ça? » Et ma réponse, je regarde, je me dis « C'est quelque chose là. Là, on parle de quelque chose là. » Pourtant, ces hommes-là, ils ont passé à travers. Pourquoi? Si tu penses qu'ils étaient des héros qui ne ressemblent pas à nous autres, c'était des gens la même chose que nous autres. Ça veut dire que la force qu'ils ont eue pour le faire venait de où? Venait du Seigneur. Alors, quelque part, on est capable de faire tout ce que Dieu nous demande dans les Écritures, même si des fois, je dis, ben moi, je suis jamais capable de faire ça. Là, tu viens de dire une vérité. Moi, je ne suis jamais capable de faire ça. C'est vrai. Toi, oui. Mais toi, avec le Seigneur, ça change-tu l'affaire? Le Seigneur, s'il décide de te soutenir, il va te soutenir malgré l'opposition la plus féroce. Alors, le partage de l'Évangile auprès des grands de ce monde aussi est demandé. Il y a des peuples, des nations, des langues et des rois. Alors, témoigner du salut en Jésus-Christ peut être intimidant, non pas seulement il peut être intimidant, c'est intimidant. Plusieurs d'entre nous peuvent hésiter et se laisser dominer par la peur. Nous ne devrions cependant pas agir de la sorte. Le Seigneur sauve et a des élus dans toutes les classes de la société. Matthieu, chapitre 10, verset 18 à 20. Et vous serez menés devant les gouverneurs et devant les rois à cause de moi pour rendre témoignage devant eux et devant les nations. Mais quand on vous livrera à eux, ne soyez point en peine de ce que vous direz, ni comment vous parlerez, car ce que vous aurez à dire vous sera inspiré à leur même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, mais c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. On lit ça, hein, des fois, on a de la misère à intégrer vraiment ce qu'il est en train de dire. Il dit, inquiète-toi pas, il m'a donné ce que tu as besoin, puis c'est l'Esprit qui va te le donner au moment voulu. On a de la misère à croire ça. Mais non, moi, j'ai peur. Demande à Dieu de te l'enlever. On ne le demande pas de nous. J'ai peur, donc tu ne le fais pas. Trois applications. Comprenons que le petit livre est christocentrique, qu'il nécessite d'être lu, étudié, médité, mémorisé et écouté très attentivement. D'accord avec ça? Jésus-Christ est, les Écritures nous disent, son nom est merveilleux. Nous devons comprendre tout sur sa personne et sur son œuvre. Pour le dévorer, il nous faut lui consacrer du temps et de la prière et surtout de l'obéissance pour nous laisser transformer et lui ressembler de plus en plus. On est rendu à l'époque où on voudrait avoir tout cuit dans le bec. La Bible dit que si tu veux connaître la Bible, il faut que tu lui consacres du temps et des efforts. Et si on ne le fait pas, on va rester des éternels enfants. On ne connaît pas notre Bible, puis on n'est pas capable d'affronter qui que ce soit. Un témoin de Jéhovah quand il y a votre porte, plutôt que de le laisser rentrer puis de l'évangéliser, vous ne savez pas quoi dire, donc vous ne le faites pas rentrer. Deuxième application, les récompenses et les satisfactions que nous en retirerons sont douces et agréables comme le miel. Étudier la Bible, la méditer, l'écouter, la mémoriser, tout ça, c'est des choses agréables. Et la Bible parle même de délices. Mais des fois, on se rend compte que lire les Écritures, ça nous semble plus un fardeau qu'un délice. Peut-être que c'était un indicatif qu'il y a quelque chose qui tombe bon, David. Troisièmement, la fidélité à proclamer courageusement et universellement son message glorieux nous est toujours commandé. Prions pour obtenir la hardiesse et la persévérance jusqu'au retour du Christ, notre merveilleux Seigneur et Sauveur. Que notre Seigneur Jésus-Christ soit béni, loué et adoré à tout jamais. Amen.